que vous avez. Et ça met en dehors du soleil, tel que l'on met dans leur espace, puisque ces planètes-là sont des planètes sociales, pardon, puisqu'elles sont fonction de liaison avec le cosmos qui vous entoure. Et ce cosmos a tous les plans de ce cosmos. Depuis l'atome, en Dieu, jusque dans toutes les dimensions. Par conséquent, instituant cette grande idée fondamentale que toutes les planètes sont aussi dans le soleil, puisque le soleil est nécessairement l'un des deux termes de l'équation soleil et son satellite, le satellite n'est pas seulement là-bas, il n'est pas simplement lié au soleil ou agissant sur lui, il est nécessairement emboîté, ici, si je peux employer cette image, écroué dans le soleil lui-même. Et ça ne serait pas juste, et ça ne serait d'ailleurs au fond pas compréhensible, que le soleil fût sous l'influence de ces planètes extérieures si elles n'avaient pas leur corrélation, leur analogie, leur analogue en lui-même. De fait, je pense que l'image générale de la croix, de la lyre de la vie, qui est offerte à une âme, c'est-à-dire à un soleil, au début de la vie, n'est pas autre chose que l'extension sur la croix et dans les fonctions de liaison planétaire de ce qui est la structure intime du soleil à ce moment-là. Et quand je dis soleil, qu'il soit bien entendu, je parle de vos âmes personnelles. Vos âmes personnelles. C'est ça qui est l'essentiel. C'est de ça dont je vais parler ce soir, vos âmes personnelles. Vous savez, j'y reviens peut-être, je ne veux pas y revenir, ça sera repris avec Mercure, car ce soir, je parle soleil du temps, la semaine prochaine, je parle la lune du temps, et si possible, je m'en vais faire jouer aussi Mercure du temps, le père, la mère et l'enfant. Tâchez de ramasser ça au mois de février. Et dans l'ordre de marche, il faut que ça soit soleil, lune, puis leur enfant, Mercure. Eh bien, les capitales, vous savez maintenant ce que j'ai entendu par Mercure, ce qu'on entend par Mercure, c'est votre devenir, c'est le soleil qui est en train de se créer, c'est la prise de conscience perpétuelle qui a des formes différentes et qui finalement est la forme que vous avez aujourd'hui. Et parce que votre âme se connaît aujourd'hui, par la prise de conscience qu'elle a aujourd'hui, la prise de conscience qu'elle a aujourd'hui ne peut être que Mercure. Ça ne peut être que Mercure, car Mercure c'est toujours une prise de conscience. La somme des prises de conscience de l'être que vous êtes aujourd'hui. Votre soleil a proliféré, a engendré une idéation, une puissance d'intellectualité, d'intelligence, d'idées, de pensées, qui vous a permis de faire face au monde et de répondre présent à ce monde 40, 50 ans après votre naissance. Ça n'est possible que parce que votre soleil a été le père de toutes vos idées, sur tous les plans, et notamment sur des plans inconnus concernant de lui. La prise de conscience, c'est bien. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je serais fort tenté de le reprendre, le sujet est de nouveau si vaste et tantalisant. Mais c'est simplement un léger rappel pour introduire le mystère, car c'est bien un mystère, le soleil. Et il faut bien un peu regarder ce que c'est que le soleil, de nouveau, et ce qu'on entend par ce terme, en astrologie et en psychologie, pour saisir ce que va être la fonction de Pluton par rapport à lui. Or, le soleil, c'est l'âme individuelle. C'est le procréateur. Il ne nous intéresse en réalité, l'autre soleil, l'autre âme, ne nous intéresse que parce que constamment, elle fait émerger au champ de la conscience que nous offre la Lune, la pensée. Et sa couronne. Couronne. Ceci dit, regardons ce soleil d'un peu plus près. J'ai mis là un cône. Sur ce cône, j'ai mis trois soleils. Le plus grand, c'est celui d'aujourd'hui. Est-ce besoin de vous rappeler que lorsque vous mettez un point au centre d'un cercle, vous soulignez immédiatement que ce cercle a une histoire derrière lui et une histoire devant lui. Ce n'est pas un cercle. Le cercle est une le cercle seul est un symbole de l'éternel présent. Et de la chose achevée. De la chose qui est le commencement et la fin en elle-même. Voilà le cercle. Mettez le point au centre. Vous avez tout de suite la conception du cause. Le point au centre du cercle est explicité par le fait qu'il représente la présence d'un cause. Or un cône, ah, comme tout est connu dans la vie, il a précisément une base et une pointe, et tout opère dans des stades de dimension graduelle. Donc vous réfléchissez à la structure du mercure. Vous verrez très bien que le mercure, c'est le développement d'un cercle en cône. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose, bien sûr, que le développement du cercle sur le cône. Car vous avez un cercle, puis le commencement d'un cercle plus grand, droit au-dessus de lui, et au-dessous, vous avez la croix qui indique précisément la loi de la spirale de montée de ce cercle, dans un cercle plus grand, le long d'un cône. Voilà, c'est réglé. Donc, votre âme, c'est parti d'une conique. Votre âme, c'est parti d'une conique. D'un cône. Et gérer, diriger, façonner par la loi des cônes, que son histoire passée est une histoire de cônes, son histoire future est une histoire de cônes. Sans aller dans l'alpha et l'oméga final de votre âme, prenant une section que l'on peut visiblement expérimenter, tester, très serré, et nous allons faire un peu ce soir. Voilà la réalité de votre soleil. Donc, quand vous prenez votre thème, quand vous mettez votre soleil sur ce soleil, et que vous y mettez ce petit point, vous allez dire, toi mon père, mon âme, tu es sur un cône, et tu es un cône, et tu es dans la famille des cônes. Voilà. Voilà ce que veut dire un soleil dans un cône. Or, remarquez ici, le plus grand des cercles, c'est le soleil actuel dans lequel. Que fait le cercle précédent, ceci? Attention. Dans votre soleil, celui-ci, il y a forcément l'ancien soleil. Précisément. L'âme de l'incarnation précédente, la voilà. Voudriez-vous qu'elle tue? On va faire ça dans un symbolisme géométrique. Vous voyez-vous quelque chose? L'âme de l'incarnation précédente, le soleil de votre incarnation précédente, vous voyez-vous? Elle est nécessairement du même cause, elle est nécessairement relativement plus réduite par rapport à la présence actuelle du soleil au sommet de ce cause. Un cause qui d'ailleurs va se continuer dans la succession des temps, mais le présent. C'est seul qui nous intéresse, et il est largement le présent. Il dépend du passé. Il dépend du passé, et le thème actuel qui correspondrait à ce soleil, la lune et toutes ces planètes, et la disposition de sa croix, donc de ses maisons et de leur maîtrise, va être nécessairement dictée par la situation qu'avait ce soleil-là et son propre thème à la fin de son incarnation. Nous ne sortons pas entièrement de l'âme passée. Plus exactement, de l'âme immédiatement passée. Et là, sa géométrie aussi. Et sa géométrie, oh, c'est pas le moment d'aller là-dedans, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'essentiel, c'est de rappeler que le soleil antérieur au présent ne nous est pas entièrement inaccessible. De l'âme de notre précédente incarnation a des résonances souvent, d'autant plus peut-être réelles qu'elles sont subtiles, a des résonances dans notre vie actuelle, dans notre âme. Le rappel, des choses dont vous avez tout à coup le rappel, pour pouvoir tracer un souvenir de votre enfance, de l'échec. Des paysages qui nous transcrivent des voies, des états, des parfums, des sons, des visions. Si vous avez une répercussion sociale, et si elle est obsédante, sachez que c'est la participation de votre soleil ici avec là, qui en est partiellement. Vous ne pouvez pas établir une cloison définitivement étanche entre votre soleil de l'incarnation précédente et celle-ci. Il n'y en a pas. Bien audacieux, bien insolent, bien ignorant, celui qui prétendrait à un gâtis social. Mieux encore, dans certains cas, il est même certain dans certains cas, que l'incarnation précédente, nécessairement représentée par un soleil qui va être schématique, n'était plus lui-même, mais toujours sur le même axe, et toujours dans la même cause, et toujours dans la même montée, est aussi lui-même quelquefois entré dans l'incarnation. Il y a là des questions qui vont couler l'escalier descendant, non pas montant, mais descendant de la croix du Seigneur. Et vous voyez que ça, c'est un sujet spécial, et je n'y entre absolument pas. Je soulève maintenant la question, je pose pas la question. J'affirme immédiatement, comme prévu de cette conférence ce soir, la présence du soleil antérieur sur le même code et sa liaison parfois exceptionnelle au soleil algorithmique. Et c'est une des raisons pour laquelle j'en parle ce soir, c'est que je suis aujourd'hui persuadé que la conjonction Pluton-Soleil, et voilà pourquoi le Pluton a été mis en jaune là, dans le soleil, et que la flèche se dirige fatalement. Où voulez-vous que le soleil soit dirigé par la force de gravitation de son Pluton? Sinon, vers quelque chose d'antérieur, puisque nécessairement Pluton sera le passé et non pas l'avenir. Que c'est toujours une espèce de retour au passé, et ramasser, si vous voulez, le fond de la coupe, c'est ratisser le fond de la cuvette, mais enfin, c'est toujours aller au fond. Avant de pouvoir monter, il faut descendre. Il faut faire l'équilibre entre le haut et le bas. Vous n'irez jamais à une certaine altitude avant d'être descendu dans un certain fond. Or, je suis aujourd'hui convaincu que, à force d'avoir vu des thèses et d'entendre des histoires et des conditions sur la conjonction Pluton-Soleil, que ça donne le droit assez questionnable, évidemment, au soleil présent, d'avoir une certaine obligation de se réduire parfois, dans une certaine mesure, à la qualité, à la vitalité du soleil précédent. C'est un mouvement, en tout cas, réductif de la puissance solaire, qui est donc la puissance paternelle. C'est incontestablement la conjonction Pluton-Soleil est une réduction incontestable de la puissance paternelle. Le Soleil est littéralement rendu partiellement, je dis partiellement parce qu'il était complètement, il n'y avait pas le thème, il est rendu partiellement impuissant. Il est incapable d'engendrer merci, d'engendrer des idées, incapable de l'idée action, incapable d'en avoir des images, donc incapable d'un après de les retenir, ne les ayant pas fait, comment voudriez-vous qu'ils les retiennent? Donc incapable de mémoire, je ne sais même pas ce que c'est. Naturellement, ça ne peut être ça que dans certains plans. Naturellement, il y a des plans très infiniment petits où le soleil rayonne de mercure fortement, parce que nous ne vivons que par le mercure que le soleil engendre, par conséquent, il le fait tout le temps. Mais dans le temps dans lequel nous vivons notre vie, sur le plan de la société, dans le plan du challenge, dans le plan de la vie sociale dans laquelle nous sommes, notre mercure est tellement engagée, professionnelle, entre autres, là, il faut le dire, la conjonction tout son soleil enlève au soleil d'une puissance claire. Et non, notre. Je vais prendre ça ici maintenant. Ça va être lié. Ceci, ignorez la planète Pluton qu'on a mis là. Prenez simplement le cadre. Vous reconnaissez que ce cadre vous a été donné il y a ou bien un mois ou en décembre. En quelque sorte, ce cadre. Ceci, c'est le contenant, le carré. C'est le contenant lune. Ceci, c'est tout le mystère du signe de la balance. C'est tout le mystère de l'incarnation. Tenu entre le soleil et tenu par la lune. Toute l'incarnation est là et le ciel est centré là-dedans. La coupe, c'est la lune, la première des coupes. Notre soleil maintenant est le contenu. C'est l'âme contenue de ce contenant qui est sa mère, puis on l'épouse, la lune. Or, la propriété du soleil normal, donc celui-là, normal, c'est d'engendrer immédiatement des enfants. Et les enfants sont représentés par ces flèches qui vont dans les quatre directions et qui occupent précisément cet espace vide entre le cercle et la pointe du cercle. C'est ça qui se produit tous les jours que Dieu fait. Tous les jours, il y a un nouveau carré qui s'offre à notre soleil, un nouveau quatre points où il y a un vide et nous procréons des idées, des images, des pensées, toute espèce d'adaptation à ce qui est notre ambiance, qui s'impose à nous, et qui s'impose à nous par l'horaire même des fameuses fonctions de liaison sociale dans notre pays. Et nos propres arts y répondent, produisant constamment une innombrable variété de gammes de idées. Or, vous voyez que le jeu est net. Ici, le soleil veut faire un enfant qui ira jusque-là. Ici, il cherche à déborder ce cadre, à le déborder, à se dépasser, en tout cas à en prendre tout le temps et de l'absorber en lui-même. C'est comme ça que le soleil passe de cette grandeur à cette grandeur. À force d'avoir absorbé les cadres que la lune lui a donné, le continent lunaire, le soleil a grandi, et il a grandi comment ? C'est en extension de lui-même, précisément dans le vide des quatre coins, qui est sa formation actuellement de son merci. Je crois que c'est clair. Alors voilà le schéma normal de l'incarnation. Une incarnation normale suppose un cadre contenant normal lui, suppose un soleil normal, un soleil bien vivant, une âme bien vivante, une âme riche, une âme touffue, une âme pleine de ressources, et qui maintenant lui est donné par la naissance le champ d'action du contenant lunaire. Là-dedans, on va dire que le soleil va nager. Ah, il va ramer là-dedans. Il va pédaler là-dedans. J'en ai aussi la vision de ça. Il va plonger là-dedans. Il va faire le dauphin là-dedans. Et il va passer dans toute espèce de niveau que lui offre son contenant lunaire. C'est ça qu'on appelle une incarnation pleine et normale. Mais il faut que ceci soit vrai. Il faut que le cadre soit solide, nul. La semaine prochaine, nous verrons quand le cadre n'est pas solide. Mais il faut aussi que le soleil soit solide, qu'il soit vraiment vivant, qu'il puisse prendre bénéfice de toute la circonstance qui lui est offerte. Or, lorsque Pluton conjoint le soleil n'est qu'à demi vivant. Il ne peut pas proliférer des mercures puissants qui déborderont ce cadre qui le font. Il fera des quantités de mercures, mais pour dire les choses brièvement, ce seront des idées de l'humiliation malingue, étiolée, expande, de naïve, candide, de premier jet, sans haleine. Le soleil ne soutient pas par son haleine, par un souffle. Il ne soutient pas par un souffle ses vents. Il s'insère dedans qu'avec difficulté. Il reste entre ses idées et son dynamisme intérieur et son inertie, il reste pris. D'une part, voilà qu'il a créé l'enfant, d'autres forces se précipitent pour lui dire « D'accord, viens avec ton enfant, tu as pris conscience de ceci, entre dans ce que tu as vu, dans ce que tu as pensé même. » Non, dit le soleil, je suis retenu. J'ai fait l'enfant et maintenant je ne peux pas payer les frais de son éducation. Voilà la situation du soleil. Encore quoi maintenant? Eh bien, une explication qui me paraît à moi aujourd'hui certaine, et il y en a certainement des quantités, c'est que être pour le soleil impossible de créer des grands mercures, le fameux, comment dirais-je, l'accordéon. Car si vous y pensez, le soleil fonctionne, l'âme fonctionne comme un accordéon. Alors l'accordéon de l'âme, il est réduit. Il ne s'ouvre pas en éventail. Et l'accordéon, naturellement, de toutes les images proliférées par l'âme, de tout la métaphysique de cette âme, de toutes les sciences, de toutes les ressources, les puissances d'adaptation à tout, mon Dieu, c'est sur un front et hors soi. Parce que la conjonction à Pluton impose à ce soleil d'être ravalé partiellement, et comment partiellement, et par plus bas, d'être ravalé un peu dans un milieu intermédiaire entre ce soleil et Pluton. Il est obligé, je n'ai pas dit de descendre à celui-là, non, ça jamais, je ne le pense pas, c'est un cas extrême, mais il est obligé de se tenir, si je peux dire, entre deux étages, entre deux niveaux. Il n'est jamais très sûr d'être là, il sait qu'il n'est plus là, il n'est jamais vraiment là, il est quelque part entre les deux, et ça fait un mouvement comme ça. Vous avez une âme qui, sur le cône de son histoire, a un mouvement un peu légèrement d'ascenseur. Reprend pas l'étage intérieur, ne te tient pas à l'étage supérieur non plus. Dans la lune, elle est au plan de l'étage supérieur, celui de l'incarnation. Elle attend son époux. Elle attend le contenu destiné à elle. Elle l'attend sur son étage. Elle ne peut pas aller le chercher plus bas. Ça lui est interdit, c'était une bonne lune. Elle ne pourra pas descendre la lune. C'est impossible. Elle l'attendra là. Ainsi, là, elle l'attend. Voilà le soleil normal. Voilà le signe de la balance, tout ça. Voilà le centre de la croix. Voilà le fléau sur Saturne. On y a la dixième maison, la volonté du ciel. Il y a tout en équilibre. Et le soleil est normal. Voilà le cadre et le centre normal. Mais vous voyez que ici, la conjonction du soleil qui tombe, c'est que le soleil ne se fait pas tenir sur cette ligne de l'incarnation. Car ça fait la ligne. C'est la ligne de la balance de l'incarnation, et l'incarnation doit être balancée dans toutes les maisons du thème. S'il y a un creux trop fort dans une des maisons du thème, c'est une des maisons dans lesquelles l'incarnation se fait à retardement, pour dire le moins. À retardement. C'est comme si on avançait non pas avec tous les wagons de front, mais les uns derrière les autres. Et qu'on avait mis à l'arrière un wagon de marchandises tout spécial. Nous avançons dans la vie très souvent comme une sorte de procession de nous-mêmes. Nous sommes partout de front comme ça dans la vie. En nous-mêmes, il y a des êtres en nous-mêmes qui sont les uns derrière les autres. Vous n'avez qu'à observer, vous verrez que c'est exactement ce qui se passe. Alors ici, cette conjonction plus son soleil le ramène à peu près là. Et ici, ça le met là. Remarquez bien ceci. Maintenant, il faut être extrêmement tâché d'être, en tout cas, extrêmement scientifique. Je ne vais pas se dire, oh, mais je suis sûr que c'est comme ça parce que je le sens. Ça, c'est de la poésie et de la musique, ce n'est pas une science. Il faut que la science trouve la chose par un raisonnement serré et démontrable. La clinique nous dira que c'est exactement ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Ça, c'est la science. Or, le sens de ma croix est intact. La lune est en normale, sa ligne est absolument elle est absolument horizontale comme elle est là. Elle est insuffisante. Elle, avec son centre de la croix et l'axe de la volonté du ciel saturnien, ça marche. Le ciel est d'accord avec la lune, dites bien. Elle est prête à l'incarnation, elle est dans cette incarnation. Elle est montée dans l'incarnation plus vite que son soleil. Lui, il est retenu. Il veut monter, oh oui, entendu, mais il a un pied à la base. Mais il a le talon d'Achille. Ah, c'est bien le talon d'Achille. Or, le talon, c'est de nouveau une partie du fil des poissons. Eudipe, qui voulait dire le pied gonflé en grec, c'est en fait le pied gonflé. Or, il est gonflé par une blessure. C'est de nouveau le signe des poissons, et c'est bien la blessure que nous faisons. Talon d'Achille, Oedipe, et ici, la même histoire, le soleil est blessé, la conjonction, c'est une blessure radicale. Il saigne tout le temps, d'une certaine façon, et dans un moment, je vous montrerai le jeu de la spirale saignante. Il veut monter, il ne peut pas absolument entrer dans l'incarnation complètement. Il l'est en partie par le fait qu'il a accepté ça. Mais il ne l'est pas encore tout à fait parce qu'il n'a pas pu accepter ça. Il ne fait pas un vis-à-vis à la lune. Or, là, que fait-il? Il ne peut pas voir la lune. Et voilà la situation d'abord. Que tout son conjoint, le soleil, lui empêche au soleil. Mais retenez bien ça. Votre âme, proliférant de Mercure, c'est surtout ça la fonction de l'âme maintenant. L'âme vue en tant que père de l'intelligence, fabricateur de l'intelligence, fabricateur de l'idéation, de la puissance de sang, de feu que vous mettez dans la pensée, donc dans la circulation psychique de votre être, dans le rayonnement, dans l'aura de votre être, dans la couleur de votre être. Le soleil n'étant pas en face de son écho, la lune, ne sentant pas où se trouve son milieu, puisque là, il le voit tout de suite. Et la lune renvoie sa lumière et sa chaleur à lui-même, et la lune lui permet de se voir, et la lune permet que votre âme se voit. Mais elle se verra précisément quand elle se verra, ça sera merci. L'intelligence est la façon dont la lune vous permet de vous voir. Mais qui a créé l'intelligence? C'est vous-même. La lune, ici, c'est un miroir. Donc, elle renvoie de vous à vous-même avec fidélité. Or, si le soleil est en dessous de celui-là, le soleil ne voit rien. Il voit rien, il n'y a pas de lune. Ici, nous avons fait cette ligne abstraite avec une lune abstraite pour indiquer quelque chose en une seconde. Mais ça, il ne voit pas. Car il est vraiment incarné, il est accroché là. Il n'est pas là, il est accroché là. Il est suspendu entre deux incarnations, la présente et la passée. Le voilà pris. Alors, il ne voit pas la lune. Alors, vous prenez un soleil qui ne voit pas la lune, il n'entend pas de vent. Il veut dire qu'il reste un peu dans l'inconscient. Ne proliférant pas, il est déprise de conscience, morale, il n'a pas suffisamment de prise de conscience. Il ne se voit pas qui il est, il n'a pas le sens de sa identité réelle, il ne se compare à rien d'autre, il reste un isolé. Or, il reste un isolé, donc partiellement dans une sorte d'inconscience. Et on peut admettre, c'est une hypothèse seulement, mais je crois qu'il vaut la peine de la souligner, on peut admettre que, sourdement, cette notre âme, lorsqu'elle est conjointe du son, est à la recherche de l'ancien équilibre qui correspond à l'un de la toujours-là, et cherche une lune, puisqu'il n'a plus de qui pourra plus jamais avoir. Parce que sa lune est déjà en avance de lui. Il cherche un contenant plus réduit, auquel il a été habitué. C'est une sorte de mémoire subconsciente d'une autre épouse, d'un autre cadre. Mais naturellement, elle s'y refuse, elle n'est pas là. Elle est là. Elle est là. Et il faudra bien que graduellement, par l'effort qu'elle fait, d'équilibrer son épouse, il faudra bien que lui, graduellement, elle lui aura servi à le remonter, parce qu'au moins, elle aura fait une chose. Normalement, les enfants qu'il aura produits, pas à cause, malgré les couteaux, mais la lune va les conserver. Mercure et la lune ne sont pas affichés. Mais normalement, c'est la fonction cosmique, la lune va faire tout ce qu'elle peut pour que l'enfant malingre que lui a donné le soleil arrive à la maturité quand même et le soignera encore davantage. Or, une lune placée comme ça indique une magnifique lune qui est prête à prendre quel que soit l'enfant que lui faudra ce pauvre mari qui est encore, dans les brumes de son histoire bâclée, eh bien, mon Dieu, elle prendra tous ses enfants, elle dira, eh bien, si au moins mon mari meurt, il laissera des enfants, il laissera une famille, et moi d'enfants. Voilà, mes chers amis, qui n'a l'air de rien, et qui est pourtant que vous pouvez lire dans un tel livre. Thank you. l'obstacle à livre ouvert que ça parle et que ça hurle, ça vient. Voilà pour la conjonction soleil. Premier chapitre sur la conjonction soleil-Pluton. Deuxième chapitre. Venons maintenant à cet escalier là, c'est capital. Cet escalier est absolument capital. C'est une des plus grandes clés de l'astrologie. Et alors maintenant dans l'ésotérisme réel de l'astrologie. Parce que cet escalier représente les... nous revenons à la conférence dernière, n'est-ce pas, sur les grands axes concentriques, sur les continents descendant des vallons jusqu'au soleil, et du soleil remontant jusqu'au Neptune. Bon, alors, gardez votre attention que ceci est un schéma de l'astronomie, la puissance. Mais, c'est toute notre interprétation, l'astronomie de la puissance, à savoir qu'au centre, là, se trouve toujours le centre du système solaire, un soleil, que le plan horizontal représente la dimension de l'orbite de Neptune par rapport à toutes les planètes intérieures à elle, intérieures à Neptune, et l'équilibre admirable que tiennent tous ces plans les uns avec les autres à l'intérieur du Neptune. Neptune est presque toujours parfaitement, presque circulaire, et toujours sur le plan proprement dit de Neptune. Cela est vrai de toutes les planètes en dessous de Neptune, mais Pluton. Ah! Et la prochaine fois, je viendrai avec le dessin astronomique de Pluton qui occupera tout le tableau noir par rapport aux planètes sacrées. Car j'appelle les autres planètes les planètes sacrées. Alors, le Pluton a 27 degrés de déclinaison, ne l'oubliez jamais. Par rapport au plan des planètes, et particulièrement de Neptune, qui est le plan normatif, 27 degrés de déclinaison. Ce 27 degrés, le parc un peu fort, il est marqué par la diagonale Pluton supérieur, Pluton inférieur. Cette diagonale, c'est l'orbite de Pluton par rapport à l'orbite de Neptune, par rapport au Soleil. Donc, dans chacun de nos thèmes, en brut, dans chacun de nos thèmes, nous avons la position d'être nous au centre du ciel. Ça dispose d'un Neptune comme ça et d'un Pluton comme ça. Et que tout le temps, il y a ce jeu de monter et de descendre, de la bascule sur notre Pluton et de remonter de notre Pluton. Et que la vie, c'est tout le temps ce mouvement-là. Nous sommes tous des boiteux qui avançons avec une carte. Tous des boiteux. C'est tout le temps ce mouvement, tout le temps. Et vous n'avez qu'à étudier, vous n'avez qu'à regarder les gens et vous-même, surtout, et vous verrez, c'est comme ça avant. Et graduellement, la position se forme. Devant tout ce talon d'Achille. Or, ce talon d'Achille, le voilà schématiquement, c'est cette chute, cette ligne perpendiculaire qui va du Neptune au plan du Pluton, où il croise de nouveau l'autre Neptune, mais descend de nouveau à un plan plus bas. De sorte que de marche en marche, on descend d'un Neptune à un Pluton, d'un Neptune à un Pluton. Et c'est une descente, parce qu'il y a une déclinaison des plans. Et il n'y a pas seulement la déclinaison des plans, mais il y a l'énormité de l'excentricité de l'orbite de Pluton. Quand vous pensez que l'orbite de Pluton autour du Soleil, si l'on voulait chercher son centre de gravité normal, le centre de gravité normal se trouve au-delà de l'orbite de Saturne, ça commence. Au-delà de l'orbite de Saturne. Au-delà. Par conséquent, il n'a dit représenter l'effort que fait le Soleil pour maintenir l'ensemble de son système en énergie très instable, mais toujours renouvelé, toujours ressuscité. Par conséquent, le système de rendu une forme de la et que les nécessités qu'il a de retrouver son équilibre sont la plus grande source de son intelligence. Car sans Pluton, il n'y a aucune intelligence. Puisque la nécessité est mère de l'invention, et que sans nécessité, il n'y aurait pas d'invention. L'invention, c'est l'idéation, c'est donc la pensée, c'est la couronne de l'âme, c'est bien sûr, et c'est le devenir du soleil. J'espère que je suis clair malgré la rapidité de la pensée. En tout cas, pour ceux qui m'ont suivi de très près depuis, disons, le printemps dernier. Cette déclinaison et cette excentricité de l'orbite, vous savez, cette excentricité de l'orbite, Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La déclinaison est de 27. Ah, je me trompe complètement, pardon. La déclinaison est autour de 17. Vérifierai ça pour le mois prochain, pour la semaine prochaine. Mais, ça c'est un détail technique dans lequel il ne faut pas me chicaner. Pour l'instant, la déclinaison est autour de 17. L'excentricité est 27. C'est l'excentricité qui est 27. L'excentricité. Alors, je ne peux pas représenter l'excentricité ici, mais je représente la déclinaison. Or, j'ai dit la semaine dernière, le mois dernier, que vous avez la spirale descendante de tous les continents et de tous les continents. La spirale montante des deux. J'ai indiqué que le piton supérieur, qui est au-delà du lit, qui représente vraiment le don du Saint-Esprit à la Vierge, qui va maintenant passer ça comme l'enfant fantasme immaculé, à l'Uranus qui s'aime par le mercure divin qui descend, le mercure gémeaux divin qui descend. Car le gémeaux, c'est le mercure descendant, n'est-ce pas? Le gémeaux, c'est celui qui descend la spirale. Or, il n'y a pas moyen de descendre une spirale sans piton, c'est pas possible. Parce que toute spirale descendante remplit la fonction de gravitation plus la mienne dans l'ensemble d'un cosmos d'alpha, oméga, oméga, alpha, le début et la fin. C'est un tout, cet univers. Et le piton fait partie de ce tout comme le Neptune. C'est un tout, c'est l'alpha et l'oméga. Bon. Donc, dans un test, l'action d'une conjonction, telle qu'elle soit, est due à une inversion des contenants et des contenus. Elle est due soit à l'inversion d'un contenant, d'une part, et soit au mouvement de la spirale directe d'un contenant qui est droit. La coupe est droite. La coupe est droite, disons que la coupe de Saturne, disons que la coupe de la Lune, elle est droite. Par conséquent, la spirale, elle va dans le sens de l'aiguille d'une montre, elle est droite. C'est la montée. La Lune qui tient son enfant, la Lune est comme ça. Ça signifie que sa spirale est dans ce sens. Et la spirale inversée, sa spirale est dans l'autre. Et la spirale inversée représente précisément un degré de la descente d'un plan à l'autre selon la diagonale qui tombe sur son supérieur inférieur. Le Neptune en est. Cette spirale inversée représente la coupe qui se déverse dans un continent plus efficace. Et qui, par conséquent, nourrit quelque chose que le continent plus efficace tient. On peut dire, dans un certain sens, que Saturne, contenant pour Jupiter, néanmoins sert de support par l'autre côté de lui-même, au contenu uranien qui va être maintenant contenu lui-même par nous. Tout ça, j'y reviendrai parce que c'est un sujet phénoménal, le mystère majestueux des contenants inversés. L'univers fonctionne par contenant inversé. La coupe du Graal est versée. Elle se tient pas debout. Elle reçoit d'en haut et le verse sur la terre. Donnez à la terre après avoir reçu. Reçu, donnez. Reçu, donnez. On reçoit et on passe ce que l'on reçoit. Et c'est tellement vrai qu'on ne peut que passer ce que l'on reçoit et qui le garde ne reçoit plus. C'est ce que j'avais voulu dire aussi ce printemps dernier quand j'ai dit le soleil lui-même n'est pas simplement un agent de liaison, il est lui-même une liaison. Il est lui-même une relation. Il est soumis par, il n'est pas même soumis à des relations, il est lui-même une relation. Donc, cette défense de plan représente précisément ici ce soleil-là à ce soleil-là. Maintenant, la descente n'est jamais complète. Elle est parfaite. C'est surtout le mouvement de la descente. Donc, c'est une spirale inversée. Spirale inversée. Comme ça. La spirale droite, c'est ça. Toutes les planètes sont en spirale droite lorsqu'elles contiennent Toutes les planètes sont en spirale inversée lorsqu'elles renversent, lorsqu'elles partent, lorsqu'elles renversent leur course et versent ce qu'elles ont contenu au-dessus d'elles. Au-dessus d'elles. Je rappelle la phrase capitale de la Lune. Lorsqu'elle se refuse, donc par une inversion de la spirale, à porter l'enfant du soleil, c'est-à-dire le principe masculin, il y a élimination. Et l'élimination est toujours du principe. Toujours. Et que toute la clé, ce que nous appelons l'élimination de nos corps, l'élimination dans tous les plans de la vie organique, n'est pas due à autre chose qu'à une lune qui a refusé de porter le principe mâle, de porter davantage, que n'en voit pas le sens, qu'il n'est plus du tout utile à son œuvre, à elle, alors elle inverse, et patatras, le principe mâle disparaît dans l'inconscient. Relativement parlant, ce qu'on appelle les extrêmes, les écrits, si vous voulez, c'est une forme de l'inconscient. Et d'ailleurs, ça va rejoindre très vite la discrimination. Cela, cette question de l'inversion de la spirale est capitale. Car voyez, maintenant nous avons Pluton conjoint Soleil. Alors, le Soleil, normalement, il monte. Et la Lune monte. Lui, il monte, là. Et alors, la prolifération des idées, la prise de conscience toujours plus riche, plus substantielle, les dynamiques se fait normalement. Voilà l'incarnation. Ce bonhomme est vraiment sur ses bords. C'est un jeune athlète, c'est un jeune athlète. Mais quand il a le soleil blessé comme ça, la spirale descendante de Pluton lui impose un mouvement de descente partielle, le ravale. Il est pris dans un mouvement de navette entre sa position actuelle et précédente. Il est dans une position d'ascenseur instable, jamais sur un palier. Alors il parle à la Lune sur le palier pendant qu'il y passe, mais sans arrêter. Et puis au bout d'un moment, il disparaît dessous, il remonte, alors il lui reparle. Ou il l'appelle d'en bas, elle ne peut pas répondre. Et la situation de ceci, c'est que le soleil dans le thème est extrêmement difficile. Voilà. Je continue maintenant, en étant moins technique peut-être, à reprendre ça une autre fois, parce que je vais entrer maintenant dans l'application de la science. La conjonction, vous l'avez dans le signe des Gémeaux, du Cancer et du Lion, vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs, parce que dans nos générations, justement, il était Gémeaux, Cancer et Lion. Il suffit d'avoir un éphémérique qui porte sur 60 ans pour être fixé là-dessus. On va retourner au plus courant de Taureau jusqu'en 81. Nous allons prendre depuis 83 dans les Gémeaux et monter jusqu'au celui de 1954, 56, 58 dans le Lion. Alors donc, n'attendez pas de conjonction dans les thèmes que pour ceux qui font le Pluton dans les Gémeaux, alors il faut un soleil Gémeaux. Ils sont Cancer, Soleil Cancer, ils sont Lion, Soleil Lion. Ça veut dire trois fois la conjonction, mais trois fois avec un sens en plus. Oh, car ce sont des signes différents. Parce qu'il y a aussi des contrôles différents qui sont dans les Gémeaux. Il ne faudra pas seulement regarder la conjonction. Il faudra regarder le maître de la maison qui aura généralement le Mercure Gémeaux. Alors, si le Mercure est bon, ça va aider. Si le Mercure est engagé lui-même, ça va être encore. Dans le Cancer, il faudra forcément avoir la qualité de la Lune. Et dans le Lion, il faudra avoir la qualité du Soleil Lune. Alors, à peu près, dans le Lion, c'est à peu près la pire des conjonctions. C'est à peu près la pire des conjonctions. Elle est très subtile, puisque le Soleil est lui-même le maître de la maison dans laquelle la conjonction se fait. Alors, le pauvre Soleil.
Tout la découverte de ce qu'il y a d'équivalent à cette vision en eux-mêmes, il n'y a pas d'autre raison pour ça. Car s'ils ne l'avaient pas en eux-mêmes, Il n'arriverait jamais à avoir l'intelligibilité, ni la réponse, ni la réaction. Ce qui nous intéresse tous, mes amis, dans nos rapports avec le monde ambiant, c'est de constater, non pas tellement de quoi il est fait, mais de constater la capacité que nous avons de réagir à lui. Tout est là. Réagir à lui. Le thème, c'est un type de Soleil et Mercure qui est capable de réaction à un défi. Et puis il y a les planètes qui fournissent l'excitant nécessaire pour amener la réaction. Mais si je veux mettre devant mes yeux, devant les yeux d'un imbécile, la plus belle vision de la mère divine, ou simplement la plus belle vision de la femme humaine, la plus poétique. Vous savez très bien ce qui arrive. Elle peut être concrète. Elle peut être là 100%. Elle pourrait être enregistrée par tous appareils, indéniablement. Elle est authentique. Et lui, il ne l'a jamais même vue. Ça est tellement vrai dans tous les plans. Pour la musique, la même chose. Pour tout. Tout le monde l'a compris. C'est essentiel de comprendre que nous montons le Neptune en nous-mêmes. Je me permets ici, parce que dans un domaine de plus en plus sacré, puisque je m'en vais maintenant aboutir, je l'espère, dans un instant, sur le Pluton, que pour me faire comprendre ça d'une façon péremptoire, j'eus en décembre une vision qui me montra la dixième maison astrologique, donc ici, là, au centre, prenez la maison qu'elle. Et toutes les barres de la maison étaient en rouge vif. Le sang. Une tulipe. Ah, comment voulez-vous que je la fasse? Voilà, comme ça. Une tulipe. Là, voilà. Voilà une tulipe. Ici, au centre, Neptune. Une tulipe s'est placée au centre de la croix, face à la dixième maison. Je la regarde et je dis, ah mon cher, nous voici bien devant un contenant. Pas d'erreur, c'est un contenant. Mais qu'est-ce qui va en sortir, surtout que la croix est rouge? Il en sort un Neptune, impeccable, je l'ai très mal fait. Un Neptune qui est donc une femme, un contenant. Elle n'est pas très charnue, mais elle est incontestable, elle est subtile au passif. Elle porte dans son bras gauche l'enfant. La vision s'arrête. L'instant d'après, seconde vision, cette fois-ci, il n'y a plus de tulipe. Il n'y en a même plus besoin. On sait que la tulipe était là, l'origine de tout ça, le contenant. Et je vois maintenant la silhouette folle de la femme divine. Et cette fois-ci, je devine qu'en effet, dans son bras gauche, elle a le porte l'enfant. Mais d'un geste magistral de ce monde, son bras droit, elle passe comme ça devant. Et elle va se mettre à côté du bras gauche. Et elle déplace l'enfant pour le mettre à terre. J'ai parfaitement compris ce que ça signifie. Ici, il ne s'agissait pas du Neptune du thème. L'intervention externe à moi-même, il s'agissait d'une révélation de ce qui m'arrivait à moi-même. Mon propre Neptune est capable d'avoir donné naissance à son enfant divin, et maintenant il est capable de le laisser trotter un peu par lui-même. Autrement dit, le Mercure va devenir plus fort. Ce Mercure sous la coupe neptunienne. Et ce que je me fais comprendre, c'est capital. C'était l'inhabileté suprême de la part de mes maîtres de me montrer ça d'une telle façon, après m'avoir montré toutes les visions où se sont eux qui sont engagés directement. N'est-ce pas? Où sont eux qui sont engagés? Mais évidemment, ils ne pouvaient montrer les visions dans lesquelles eux sont engagés. Qu'à une condition, c'est que je les mérite. C'est qu'il y ait eu une correspondance dans le temps. Et forcément, venait un moment où leur action et la mienne devait aboutir à mon arrivée aussi au plan de mon Uranus personnel, qui n'était pas seulement celui du thème, mais j'arrivais en quelque sorte à m'introduire dans le corps christique de toute ma société spirituelle, la grappe à laquelle mon soleil appartient. L'effort fait d'en haut pour m'en rendre conscient. La réaction de moi montant à ça, ce jeu de la vie, voilà. Et le thème astrologique, c'est mathématiquement, géométriquement, minutieusement, implacable. Je fais ça. Est-ce que je suis clair? Bon, alors maintenant, je passe à la troisième, la dernière chose. Je viens maintenant au Neptune, contenant qui est en dessous du contenant jaune. Nous sommes maintenant, nous comprenons bien, nous sommes dans le plan de Neptune, n'est-ce pas? Et Neptune, c'est celui qui est appelé à recevoir directement du contenant ou du contenu supérieur ce qu'il va donner au contenu inférieur. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc, nous avons dans la tradition humaine, chrétienne, entre autres, nous disons couramment que la Sainte Vierge a conçu cet enfant immaculé du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, ici, ne peut pas être autre chose que le contenu qu'elle a pu prendre au-delà d'elle-même avec l'intention de le faire passer à ses enfants et de leur donner pour aller rechercher davantage selon la loi que pour recevoir, il faut donner, remplir, vider la main. Le Saint-Esprit. Langage humain. Admirable que l'homme pense à des termes aussi sacrés, aussi bas. On très bien les comprendre. Surtout parce qu'il les vit si rarement et qu'il les oublie souvent quand il les a vécu. Toujours est-il comme lorsque vous avez l'expérience d'une certaine révélation spirituelle, en rêve, par exemple, vous vous sentez comme libéré de toute la chair humaine et de votre moi pesant, et vous avez trouvé comme la clé de l'univers et que vous cherchez un repos, à ce moment-là, vous pouvez avoir toute espèce de nuancée et vous pouvez avoir là le sentiment d'un amour infini qui vous est apporté. Vous êtes l'objet d'un amour infini. Et d'un amour non seulement infini, mais qui est à la fois toute sagesse et donc toute puissance. C'est ça, parce que cette puissance féminine, alors, c'est bien une déesse. Si vous voulez, la Sophia antique, la sagesse. Si vous voulez, Pallas Athénée, ça m'est bien égal. L'essentiel, c'est que ce soit la fonction, le jeu, du contenant neptunien prenne toute sa valeur. Or, mes amis, je viens à Pluton. Vous voyez cette ligne jaune? Elle est au-delà de Neptune. Au-delà de Neptune. Elle est plus haute. Elle est en profondeur derrière la Neptune. Ça, c'est le Pluton divin. C'est le Pluton divin qui verse dans la coupe droite de Neptune ce que Neptune peut donner à son enfant Uranus et ainsi de suite. Et il faut que le Pluton divin serve les siens qui sont représentés ici par cette croix-là. Le Pluton divin, il sera au pied de cette croix. Le Neptune divin au sommet de cette croix. Ici sera notre Neptune et ici notre. Ici notre. Ici le Pluton divin. Et j'aborde toute la théorie, le mystère de Pluton, en le prenant là où il faut le prendre, là où nous pouvons le saisir dans toute sa perspective, là où nous pouvons même le mieux saisir son jeu, que ça, ce qu'il donne, sa fonction, son service, la dimension du service, de sorte qu'alors, inversant ça, descendant au pied de notre propre thème, nous allons voir notre propre Pluton avec une intelligence. Le Pluton sacré. Notez qu'il est sacré, simplement parce qu'il apporte quelque chose d'en haut qui doit descendre. Il représente précisément l'inversion de la spie. Ceci, c'est l'inversion de la spie, et tout ce qui fait le mouvement de l'inversion est sous le régime, la fonction de Pluton. Tout ce qui fait le mouvement droit est sous le régime de la fonction droite de la façon. Le mouvement descendant bas vers le Pluton express, c'est le mouvement de Pluton indéfiniment, aussi loin qu'il peut arriver, de gradation en gradation. Il dérange, il descend la spire, il descend les contenants, il est réduit de plus en plus. Ici, au contraire, les contenants grandissent de plus en plus et nous montons carrément alors au monde divin. Au monde solaire proprement dit. Ce double mouvement est constant en nous-mêmes. Mais il n'est pas constant qu'en nous-mêmes. C'est là-dessus que je veux venir. Il est constant dans l'univers. C'est parce que vos maîtres, parce que tous les esprits qui vous contactent, que ce soit ceux qui sont les vôtres, vos amis, vos aimés, que vous allez dans un rêve ou autrement, il y en a quelques-uns qui n'ont jamais aucun contact, disons, mais ils glissent de ces contacts. Et quelque chose en vous vous y porte à y croire. Je sais pertinemment que cette chose est réelle. Pour moi, c'est le pain quotidien, ça ne se questionne même plus. C'est une partie d'une réalité géométrique, je le prends comme ça. Mais ce qui importe de ça, c'est que tout venant à vous, vient grâce à la spirale inversée, la coupe inversée du Neptune, au Jupiter, au Saturne, mais du Neptune lui-même, au-delà du Neptune, parce qu'il n'est plus, alors, neptunien, parce qu'il n'est plus du même ordre, attention maintenant, et qui est un autre monde, absolument, dans lequel nous n'avons pas le droit d'aller, et alors ça commencera par s'appeler plus supérieur. Il y a là une chose absolument formidable, qu'on se comprenne bien. Entre le point indéfini ici et le point indéfini là, vous avez les deux infinis, relativement parlant. Vous avez ce qu'on appelle ici le point alpha, ici le point oméga. Je suis le commencement et la fin, dit l'Éternel. Et c'est là le poisson, le commencement et la fin. Je suis le temps dans un sens et dans l'autre. Je réunis le passé et l'avenir dans un éternel présent. Bon. La question est, où commence pour l'homme, pour notre tête, le point alpha? Et où termine? Où arrive et se termine le point oméga. Avons-nous dans notre thème le point oméga? Mais oui, nous l'avons. Et c'est notre Neptune. Neptune boucle le thème de l'expérience de l'incarnation. Et la boucle incontestable. Rien ne peut venir de plus haut que Neptune qu'à travers lui. Par conséquent, ce sera nettement conditionné par notre Neptune. Par analogie, le Neptune intérieur au Soleil. l'unisson neptunien va se faire là. Ce que nous sort d'un monde supérieur à Neptune ne sera que ce que Neptune a bien pu et bien voulu verser par sa coupe inversée sur nous. Au-delà, c'est le monde que nous appelons le monde plus spirituel encore. C'est le monde alors des gens. Alors là, nous pouvons broder, suivant les écoles que nous préférons, suivant les images et les concepts que nous avons, suivant le sens des hiérarchies. Je n'ai pas le droit d'entrer là-dedans maintenant. Je m'en moque éperdument d'ailleurs. Je retiens le fait mathématique que si Neptune donne, c'est parce que Neptune reçoit. Que Neptune est le point oméga de l'âme humaine et qu'il touche le point alpha d'une âme supérieure à celle de l'humain incarné. C'est aussi une âme humaine, bien entendu, et qui, en principe, surtout si elle est surtout agissante par le Neptune, est reconnue par le Neptune comme ayant vraiment une nourriture immaculée à fournir à votre Mercure. Il faut que quelque chose descende au Neptune. Neptune, c'est pas la fin du monde. Neptune, c'est pas la fin du ciel. Neptune, c'est la fin de l'oméga. Et dès qu'on a dépassé là, voilà pourquoi vous n'arriverez jamais directement dans l'incarnation. La ligne jaune, c'est le plus grand supérieur, parce que ça, c'est l'alpha. Ça fait partie de l'économie d'après l'incarnation. Ah, vous n'y arriverez pas. Vous en respectez tout le temps les bénéfices. Mais plein de pays d'accès, il n'y a rien à faire. Ceci est le Pluton du monde immédiatement au-dessus de vous, comme cette croix est au-dessus de la vôtre. Or, jamais cette croix ne vous passera les choses dans la vôtre que par le mouvement descendant. Et vous reconnaîtrez ça par le mouvement montant, qui vient la puissance d'oméga en vous, la puissance de Neptune. C'est le donnant, donnant, c'est le grand dialogue. Est-ce que je me rends? C'est nouveau pour vous. Ça vous tourne la tête? Est-ce que je me rends clair ici un peu? Vous ne vous attendiez pas à ce que je vous présente à Pluton comme ça. Je vous avais fait peur avec lui pendant des années. Et vous vous attendiez à ce que j'allais vous peindre en horrible sacripant. Il n'avait qu'un intérêt, c'est de vous détruire. Mais vous voyez, c'est pas ça. J'ai en effet, vous ai flanqué une sainte peur, quelques-uns d'entre vous, beaucoup qui ne sont pas dans la salle. J'ai flanqué une sainte peur sur votre épaule. Je les ai fait dresser sur leur vergot. J'ai fait du drame et du mélodrame. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Vous êtes intelligent, vous comprenez pourquoi. Quand Pluton est fort dans notre thème, alors vous comprenez, quand c'est notre Pluton de notre thème, soyons bien tranquilles, ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci. Pas de blague. Celui-là est exactement tout ce que j'en ai dit et bien davantage. J'y viendrai des prochaines semaines. Mais, si j'ai parlé comme ça de lui, à grand renfour de tambour d'exécution même, quelquefois, un roulement de tambour qui dit vous allez être exécuté dans le coin, c'est parce qu'il fallait rendre la personne aussi consciente que possible du danger dans lequel elle était. Tâchez de la voir se dégourdir, hein. Tâchez de faire l'effort par la peur, dit. La nécessité est mère de l'invention, je dis peut-être finirait par inventer une compréhension de quoi il se passe. Et comme par définition aussi, Pluton, puissance relativement inerte, n'y comprend rien à la croix. Et autrement dit, et c'est ce que nous allons analyser quand je viendrai aux aspects de Pluton avec Mercure. Ah, mais c'est ça qui va être intéressant, les aspects de Pluton avec Mercure. C'est qu'on verra très bien qu'il n'a qu'une envie, c'est de faire entrer dans la conscience. Et comme il est le prince de toutes les inversions, et heureusement, puisqu'il nous invertit le ciel pour nous l'apporter, mais aussi en dessous, en faisant vider l'autre monde dans un monde inférieur dont nous nous passerions bien qu'il le fît, puisqu'alors il découvre là le boulet de l'évier, et en avant la musique, tout l'eau part là-dedans, si on ne l'arrête pas. C'est une loi de gravitation qui est en jeu. C'est un principe cosmique en jeu. S'il n'y avait pas ça, comme bien d'autres choses, vous n'auriez pas de muscles, vous n'auriez pas de genre, tout ça se tient, n'est-ce pas? Et si j'ai fait ce drame, c'est précisément parce que je savais bien que combien tout le temps, Pluton arrive, il inverse la courbe de la Lune, et la personne a totalement oublié ce que j'ai dit. Mais totalement, n'est-ce pas? C'est un panier percé. On ne sait plus rien de ce que j'ai dit. C'est à vous désespérer. Au bout, je me suis dit, bon, puisque je fais comme ça, je vais la flanquer avec un badigeon d'acide. Il en restera toujours après des traces de petites véroles, même quand ils n'auront tout perdu. Ils diront, mais comment est-ce que j'ai la petite vérole? Ils diront, ah oui, je me rappelle, c'est un fait qu'un jour, il y a un monsieur, un drôle de bonhomme, qui l'a mis en garde contre ma petite palette Pluton. Tiens, 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 allons y voir un peu maintenant. C'est tout ce que j'ai cherché à obtenir. Qu'après la crise, je voyais des gens qui allaient passer par une crise terrible, sur le plan maintenant, disons, particulièrement affectif, dû spécialement à leur Pluton. Je disais, mais non, d'un chiffre, qu'est-ce qu'ils vont prendre? Et puis, il n'y a pas d'affaire, ils vont y passer, il n'y a rien à faire. C'est dans l'ordre, c'est dans le programme de leur éducation. On n'a pas le droit d'éviter ça. Si le Seigneur n'intervient pas l'enfant dans une bonne maladie, parce que souvent la maladie est une grave Michel. Si rien n'arrive, ils vont aller dans le panneau à fond. Ils en sortiront, naturellement. C'est quelques plumes de moins. Même un peu plus exsangues. Mais qu'est-ce qu'ils auront appris? Alors je me dis, est-ce que c'est la peine de les mettre en avant? Est-ce que c'est la peine de leur en parler? Non. Pourquoi? Parce que ça leur donnait déjà le vertige d'y aller. Ils avaient le vertige d'aller à faim. Alors ne faisaient pas, ils empêchaient. Ça n'aurait pas réussi du tout. Vous ne pouvez pas les retenir. Moi, je me disais, quand ils en sortiront, parce qu'il y aura toujours après-demain, dans un an, ça prendra bien un an, mais quand dans un an ils s'en sortiront, ils diront, non, non, chien, il y a ce monsieur Bouga qui m'a dit ça, alors je m'avais me rattrapé à ça. J'ai perdu toute loi de l'univers, j'ai plus de boussole, je ne sais plus où il y a un ciel, où il n'y a rien, je suis complètement à bout de tout, je suis dans les ténèbres. Mais quelqu'un m'a parlé d'une planète Pluton responsable de ça. Si j'ai réussi ça, j'ai tout réussi, on pouvait faire. Voilà pourquoi vous m'avez entendu les premières années taper avec ça, mettre Pluton en avant, n'est-ce pas? Parce qu'il ne demande qu'une chose, c'est que vous ne le voyez pas faire son petit boulot de dégradation des tirs, n'est-ce pas? Des inversions. Il ne demande pas autre chose, c'est sa fonction. Puisque votre Mercure n'est là que pour être alerte. Et pour voir ça et l'arrêter. Car qui veut l'arrêter, c'est Mercure. Et la raison d'être de Mercure, c'est précisément de l'arrêter. Alors, si vous comprenez le rôle du Pluton, vous comprenez bien maintenant ceci, c'est qu'il y a un tout qui est en cause ici. Mon départ sont les éléments du thème, mais le tout est bouclé entre oméga et alpha. Que vous n'avez nullement accès à l'alpha supérieur, j'aime autant appeler ça l'alpha supérieur que le Pluton. Vous n'avez nullement accès à ça. Directement, vous ne pouvez pas y aller voir. Il s'ouvrira à vous en vous apportant ce qu'il a. Mais vous n'y aurez jamais dans cette vie. Que dans des rares moments. Dans des rares moments spéciaux. C'est certains voyages dits astro peut-être, n'est-ce pas? Vous n'y irez jamais voir. Mais c'est le commencement alors d'une autre âme, d'un autre thème astrologique, car tout le dynamisme de l'horoscope, vous l'avez déjà compris, n'est pas autre chose que l'action infiniment subtile et constante de la médiumnité du monde invisible qui vous entoure et qui est descendue à vous par son alpha, c'est-à-dire par son Pluton. C'est la puissance supérieure qui assure la distribution des énergies qui viendront même du Neptune supérieur, de l'Uranus supérieur, qui arriveront finalement à ce Pluton supérieur, qui sera maintenant le contenant de Neptune et qui sera maintenant chargé de lui passer ce qu'il a reçu d'en haut. Voilà la fonction sacrée de Pluton. Et si vous vous rendez compte, alors là, cela, vous pouvez vous en rendre compte en pleine lucidité et intelligence, parce que s'il y a quelque chose qui est significatif, c'est que les heures de l'âme sont dites des heures lumineuses, c'est parce que Mercure est fort, c'est parce que l'intelligence est en pleine action. Il n'y a pas de déficience de mémoire. Alors, si vous vous rendez compte que lorsque vous recevez du Pluton supérieur, mais par Neptune, que c'est du Neptune que vous le recevez, que ça vient pour vous que de la Sainte Vierge et pas d'au-delà d'elle, et que c'est elle que vous voyez, et ça ne vous regarde pas d'aller voir d'où elle le tire, n'est-ce pas? Ben, ça sera une profanation, ça. Ça sera une profanation. Vous ne réussirez pas. Que vous ayez entièrement l'émotion qu'elle vous donne, et que vous saisissiez la plénitude de ce qu'elle vous apporte, c'est tout ce que vous pouvez demander dans cette vie. Mais ce qui est frappant, c'est que vous faites ça lucidement. Vous faites ça, vous vivez votre expérience spirituelle. Vous vivez ce contact, vous vivez ces émotions, vous les liez ensemble, elles vous donnent des idées formidables, elles vous clarifient l'intelligence, elles répondent à des grands mystères. Bon. Là, l'intelligence a été en quelque sorte sous une grâce. L'intelligence elle-même a été sous une grâce. L'intelligence elle-même s'est découverte une glorieuse chose. Alors maintenant, mes amis, pensez à ça. Quand vous avez affaire à votre Neptune et affaire au Pluton supérieur, voyez le jeu de ce qui est le Pluton de vos grands maîtres sur votre Neptune et sur vous. Là, vous pouvez suivre le jeu si vous en donnez la peine. Et alors, ayant compris, descendez maintenant à votre Pluton et comprenez que sur le plan de votre Alpha, sur le plan de votre Pluton, vous-même, dans votre Oméga, vous touchez l'Alpha, le point, dans votre Alpha, vous touchez le point Oméga d'une âme sur un plan inférieur. Il y a toujours trois croix, l'une sous l'autre, j'en ai mis que deux. Il y a la vôtre au centre. Il y a celle qui est au-dessus de vous, il y a celle qui est en dessous. Vous ne touchez celle d'en dessous que par votre Pluton. Vous ne touchez celle d'en haut que par votre Neptune. Et ainsi de suite. Et vous n'avez pas d'accès, pas plus que vous n'avez accès au Pluton supérieur, au-delà du contenant Neptune, ça, il vous arrête. C'est une indiscrétion terrible de demander à la Sainte Vierge d'où elle vient. Et pour ça, vous seriez très vite punis. Alors là, pensez que votre Pluton est en train de nourrir de la nourriture qu'il a reçue de vos astres et de votre Soleil et de votre Mercure inversé. Il est en train de nourrir un Neptune inférieur et qu'il est en train de lui passer une nourriture que ce Neptune inférieur, qui est la Sainte Vierge relative pour cette âme inférieure, va avec ça nourrir cette âme et ce Soleil, de sorte que vous voyez la fonction sacrée de votre Pluton à vous, alors maintenant, dans votre thème, en ce sens qu'elle sert strictement à sauver des âmes. Que vous sauvez des âmes, bon Dieu! Que vous sauvez des âmes, là non pas avec votre Neptune cette fois-ci, et que vous sauvez des âmes à un prix effroyable, souvent pour vous-même. Oui, c'est justement la chose. C'est que vous êtes en liaison là avec la grande descente, et que vous vous êtes penché sur le vertige de l'abîme, et qu'il faut aussi pencher, le berger se penche pour chercher la brebis perdue. Et vous avez le chemin de la brebis perdue. et vous allez la chercher, car vous n'êtes pas digne de monter sans l'avoir trouvée. Voilà la descente, et voilà votre fruiton. Et voilà pourquoi, je crois sincèrement, c'est la raison pour laquelle toute l'œuvre, disons, de Jésus-Christ, qui fut une œuvre de lumière, d'accord, mais avant toute chose de salut, elle semble toujours être soulignée comme une œuvre de salut. Je ne parle pas de ce qui est historiquement authentique ou pas, je constate simplement ce qui fait les besoins de la psychologie humaine entre-temps. Mais ce besoin du salut, après la notion de Jésus-Christ répond, est tout de suite liée, s'il vous plaît, à une vie horriblement supplicielle, car une des caractéristiques de la vie de Jésus, c'est un supplice perpétuel. Or, vous pouvez faire du bien et sauver des âmes sans nécessairement passer par un supplice. Mais chaque fois que vous allez passer par votre triton pour sauver une âme, vous allez passer vous-même par un supplice critique. Et voilà la clé de votre triton à vous, dans votre tête. Le mois prochain, jeudi, j'aurais avancé le jeudi, jusqu'en avril, le jeudi, jeudi 6 avril, 6 février, et le 13. Alors je commence, ayant donné, en quelque sorte, cette lancée, ce départ de la signification de ce temps, de la prise en haut, j'aurais montré ce qu'il fait par tous les planètes de notre terre à nous. Pas, il est logique que, étant le Pluton de l'âme supérieure, d'abord, il donne à notre Neptune que l'âme supérieure connaît aussi les supplices du Christ quand il cherche cette âme, parce qu'elle est appelée à, parce qu'elle est posée pour sauver l'âme qui est directement supérieure. Et que de fois dans le thème, j'entends le dialogue que font les grands maîtres de mon patient, de mon client. Quand je vois le dialogue du Neptune et de l'Uranus du thème, ou le dialogue du Neptune avec le Mercure, ou avec le Soleil, quand je vois la bataille qu'il y a dans cette vie par ailleurs, je dis, mon Dieu, ce que son ange gardien pleure aussi. Ce qu'il pleure aussi. Parce que là où joue son Pluton directement, c'est aussi son supplice. C'est là que nous avons la clé de la notion réelle du supplice salvateur. Le mois prochain, je prends Pluton dans nos thèmes et je le prends dans tous les aspects du Soleil, puisque le Soleil est le père, l'enfanteur de tous les Mercures. Alors, les aspects de conjonction et enfin tous les aspects de Pluton au Soleil. Ensuite, je le prends avec la Lune, premier contenant du Soleil, ensuite je le prends avec Mercure. C'est le point de départ de toutes les analyses sur ce temps. Et prenons sur ce point-là. Et ainsi, si Dieu me donne vie, je n'en ai plus. Je crois que je vous ai tracé bien pour donner ma leçon jeudi soir à mon hôtel. Il serait peut-être sage téléphoner à Madame Pascal pour être sûr. Je ne sais pas quel petit tour mon Pluton peut me jouer. Il paraît qu'il y a même la main dessus. Je n'ai pas inversé mon Mercure assez vite pour couvrir le territoire. Ah, une autre chose. Dans ces trois prochains mois, il m'est venu à l'esprit de proposer à ceux qui viennent à toutes ces leçons et qui n'ont jamais eu leur thème fait par personne et qui même ont eu leur thème, qui ont leur thème, je préfère même ceux qui ont leur thème, que je leur donnerai une consultation spéciale sur la signification du Pluton dans leur thème. Ce sera strictement une consultation, non pas de tout leur thème, avec tout ce que ça comporte, mon Dieu. Mais sincèrement, qu'est-ce que... Voilà une femme de 40 ans, 50 ans. Qu'est-ce que Pluton... Comment expliquer... Où aller voir ce que Pluton a pu y faire dans la vie? Sans se picher de là. Sans l'attribuer à autre chose. Comment, et surtout cela, non seulement pour expliquer mieux le passé, qui est pourtant intéressant qu'on y comprenne un peu quelque chose à son passé, mais surtout pour l'utilité de demain. Parce que cet oiseau-là... Oh, mais vous comprenez une chose, et j'arrête maintenant carrément ici, que tout le mystère, mes amis, tout le mystère de ce qu'on appelle l'invasion psychique. Terme général pour les vampirismes, pour les obsessions, les fixations et les possessions. C'est toujours dû à un pauvre petit Neptune, un cercle concentrique de la croix inférieure, qui a découvert votre Pluton et qui se dit chic, par lui j'ai atteint de la lumière. Parce que notre Pluton, dans notre thème, est le rayon lumineux, si mince qu'il soit. Il est la lumière, la seule lumière que voit dans leurs ténèbres l'astral humain inférieur. C'est ce Pluton-là. Comme notre Neptune, il voit dans les plans supérieurs le Pluton supérieur. Et qu'il ne demande qu'à s'unir à lui. Bien, mon Dieu, le Neptune inférieur ne demande qu'à s'unir à l'autre Pluton parce qu'il cherche la lumière. Et alors, si l'autre Pluton ne sait pas le prendre en main, il y a bagarre. Et c'est pas tout le mystère géométrique, d'ailleurs, sans tirer les choses par les cheveux. La géométrisation de ça est formelle et complète de tous les phénomènes de vampirisme, et enfin tous les phénomènes de possession. C'est dû à une action directe sur votre Pluton, par un Neptune inférieur. Et naturellement, vos planètes à vous ont été incapables aussi de rectifier suffisamment la position pour que ce ne soit pas fait d'une façon adhésive. Mais que sauver les âmes qui sont inférieures, c'est notre tâche. Et qu'il faut donner pour recevoir. Et donner surtout, tout non pas à ce que nous voyons, mais à l'invisible que nous voyons. Comme nous recevons surtout, non pas de ce que nous voyons, mais le courage, l'inspiration, une force spéciale, nous le recevons d'un monde invisible inférieur, et nous le passons aussi à un monde plus bas. Et nous le passons sans même nous rendre compte. Et nous le passons au moment précis où nous souffrons nous-mêmes le martyr. Là-dessus, je finis ce jour. Ça marche. Ce qu'elle me rend malade, ce que je suis là de la fréquenter. Elle dit la famille astrologique assez unanimement. Un des cas où elle est unanime, c'est bien mal. Elle dit que la sixième maison, c'est le domaine des animaux domestiques. Ah, tous les braves animaux domestiques, serviteurs de l'homme. Oh, tous les gens tout bêtes, oh là 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 là. Et la ferme, et tout le monde, c'est la sixième maison. Mais la tradition nous dit aussi, et la famille astrologique, mais quand vous savez, que la douzième maison, le poisson, c'est le monde des animaux sauvages. Ah, c'est dans la tradition aussi. Les grands animaux et surtout les animaux indomptés. Alors, vous voyez bien qu'alors, quand à ce moment-là, le même bonhomme astrologique vous sort, oh bien, n'est-ce pas, c'est Jupiter qui est le maître des poissons. donc de 12. Ou alors c'est Neptune. Mais c'est sûrement pas Pluton. Vous voyez à quel point il se couvre les yeux, puisque forcément c'est ça, et que toute la dégradation de l'évolution jusqu'au plan les plus infinitésimaux, comme jusqu'à la gradation vers les plans les plus divins, se trouve dans la 12e maison. Et les deux mouvements, l'un ou l'autre, tout le temps, là. Donc les grands animaux sauvages, c'est les poissons. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand les gens ont le poisson sur l'ascendant, ils sont souvent si misérables, de temps en temps exaltés, de temps en temps dans le 36e dessous, suivant que la coupe s'inverse, alors ils foutent le camp dans les dessous, suivant que la coupe est droite, alors ils montent vers les régions célestes. Si c'était Neptune seul, il n'y aurait que la montée à la région céleste, et j'aime autant vous dire que d'avoir l'ascendant en poisson serait bien la plus belle chose que vous puissiez espérer avoir. Voilà. Et que si vous l'aviez au milieu du ciel, le poisson, ce serait une sainte merveille, si c'est seulement Neptune, il vous conduirait droit au ciel et il mobiliserait tout le thème pour ça. Or, il ne fait pas ça. Parce que vous avez le jeu de l'inversion tout le temps, n'est-ce pas? Et c'est à découvrir finalement qui va être le maître de cette équipée. Voilà. Voilà pour la famille astrologique.